Je vous invite maintenant à vous tourner dans l'évangile de Jean, au chapitre 6. Jean 6. Il y est question d'un miracle. Le seul miracle qui soit rapporté dans tous les évangiles, les quatre évangiles, de Matthieu, Marc, Luc et ici Jean. On l'a justement vu dans l'étude que nous avons faite de l'évangile de Marc, et j'espère que, parce qu'on connaît l'histoire, on ne va pas décrocher. C'est souvent la possibilité, lorsqu'on connaît une histoire trop bien, on est moins attentif que si c'est quelque chose de tout nouveau. Un passage obscur de Zacharie, on est plus intéressé de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Mais le fait que ce miracle, ce passage se trouve de la vie de Jésus, ce moment de la vie de Jésus se trouve dans les quatre évangiles. Le seul autre, bien sûr, c'est la résurrection qui est rapportée dans les quatre évangiles. Ça devrait nous interpeller et nous dire qu'en fait, il y a sans doute des choses à retirer que nous n'avons peut-être pas bien connues. On va lire et commenter au fur et à mesure. Mais avant ça, je vais aussi prier pour que le Seigneur nous éclaire, nous permettent de recevoir toutes les leçons qu'il veut que nous en recevions. Seigneur, merci pour ta parole. Nous le chantons parce qu'elle le dit elle-même, quelle est la vérité. Seigneur, merci pour cette vérité sur laquelle nous pouvons fonder nos vies. Nous vivons aujourd'hui dans un monde de fake news, de réseaux sociaux, de manipulation de l'information, même des fois peut-être par des puissances étrangères. Et il est bon et rafraîchissant de lire en sachant que ce que nous lisons, c'est la vérité, Seigneur. Et ton Esprit Saint qui a inspiré ces paroles à des auteurs humains est aussi présent pour nous restituer cette parole au plus profond de nos cœurs. Seigneur, pardonne-moi lorsque je ne suis pas attentif à tout ce que tu as à me dire dans ta parole ou que je ne la lis pas aussi régulièrement que je le devrais, avec une attention soutenue et une prière pour que tu me parles. Mais Seigneur, aujourd'hui, on te le demande, parle-nous. Interpelle-nous, Seigneur, au plus profond de nous-mêmes. Et Seigneur, nous voulons te remettre aussi les enfants qui sont enseignés, les jeunes qui sont enseignés. Merci pour l'interjeune qui a eu lieu hier soir. On prie que là aussi, Seigneur, tu prépares une nouvelle génération de gens qui soient tout à toi et tout à ta volonté pour partager cette parole et la faire connaître pour qu'un nombre toujours plus grand de personnes soient sauvées, Seigneur. Donne-nous la foi que nous voyons manquer à tes disciples, pour vraiment continuer à annoncer autour de nous cette belle et bonne parole, Seigneur. Sois glorifié dans nos cœurs ce matin, sois glorifié dans les églises qui t'adorent en esprit et en vérité, dans cette ville, dans cette région, dans ce pays. À toi seul, sois toute la gloire. Nous te le demandons par le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Une expression qui revient souvent dans la Bible, c'est « après cela » ou « après ces choses ». Et ici, ça commence. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée ou lac de Tibériade. Après cela, fait donc référence aux événements qui ont été décrits dans les chapitres précédents, il y a eu déjà ce que la Bible appelle des signes. Un premier signe, ça a été la transformation de l'eau en vin aux noces de Cana. Et puis, il y a eu ensuite la guérison du fils de l'officier romain dans Jean 4. Et puis, Tonio nous a parlé dans l'Évangile au chapitre 5 de la guérison de l'infirme dans la piscine de Bethesda. Quelqu'un qui était infirme depuis 38 ans. Ici, on pense que ce temps, depuis qu'on a fini le chapitre 5, il s'est passé combien de temps chez nous ? Une semaine. Et c'est dangereux lorsqu'on étudie en suivant, on ne se rend pas toujours bien compte du temps qui passe. L'évangile de Jean, il a été écrit pour quelle raison ? Je le rappelle à chaque fois parce que c'est très important. Il a été écrit pour que, c'est dans Jean 21, ou Jean 20, 31, ceci, tous ces faits ont été, les signes, les miracles ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ce livre a été écrit pour que nous ayons la foi dans le salut en Jésus-Christ. Et s'il est important de le noter, c'est parce qu'ici, on va voir que les disciples ont manqué de foi. Il est important donc de réaliser que ce n'est pas un récit nécessairement chronologique. En gros, il y a une chronologie qui est suivie, mais souvent, cette chronologie, elle n'est pas très précise. On voit que, en fait, il s'est passé en fait au moins 6 mois. Il y a une fête qui se passait au début du chapitre 5, et ici il y a une autre fête, on pense que c'est la Pâque, donc c'est dit au verset 4. La Pâque, la fête juive était proche, et donc il s'est passé soit 6 mois, si la fête précédente était la fête des tabernacles. Si c'était la fête de la Pentecôte, de la Pentecôte, c'était seulement quelques semaines, mais si c'était la fête de la Pâque précédente, ça fait 1 an. Donc il s'est passé beaucoup de temps, et ça explique que maintenant il y a une grande foule qui suit Jésus. Il accomplissait des miracles, et il est dit une grande foule le suivait. Ils passent de l'autre côté du lac de Galilée. Ils étaient à Capernaüm, c'est à l'ouest, pardon. Là, ils vont sur les hauteurs du Golan, où il y a eu des combats dans la guerre des 6 jours, très célèbre. Aujourd'hui, quand on visite Israël et qu'on voit le Golan, on voit encore des tanks, des restes de cette partie de ce moment de guerre. Et on peut voir aussi, on domine la plaine syrienne et du Liban. Donc ils s'en vont dans une partie un peu plus désertique. Et pourtant, il est dit, verset 2, une grande foule le suivait parce que les gens voyaient les signes miraculés qu'il faisait sur les malades. Une grande foule. Donc il y avait des hommes, mais il y avait aussi sans doute des femmes. Des enfants, des épouses, des grands-mères, il y avait du monde avec les 5000 hommes dont il va être question au verset 10. Et on voit qu'en fait, Ces gens suivaient Jésus pour ce qu'il faisait, non pour ce qu'il était. C'est souvent notre cas. On pense à prier, à se tourner vers Jésus quand les choses vont mal, quand on a des besoins physiques, quand on est dans la maladie, lorsqu'on a des besoins matériels, lorsqu'on est dans la pauvreté, lorsqu'on a des besoins psychologiques, quand ça va pas dans la tête. On commence à lire les psaumes et on dit « Jésus, viens me remettre en forme ». Et ces gens qui le suivaient, c'est parce qu'ils voyaient qu'ils pouvaient guérir. Qui parmi nous n'a pas besoin de guérison aujourd'hui ? Il y en a qui se sentent parfaitement en forme, 100%. Je ne vais pas demander de lever la main. Mais on a tous un petit bobo, ou des fois des gros problèmes de santé. On a tous de l'arthrose qui s'installe. On a tous des pieds qui se tordent en jouant au foot. Même quand on est en pleine forme et plein de force, on est toujours à pouvoir demander de l'aide de Jésus. Et ce qui est remarquable, c'est que Jésus, il accède à nos requêtes, même lorsqu'elles ne sont pas motivées par sa grandeur ou qui il est, le Fils de Dieu qui a choisi par amour de s'incarner, de venir mourir pour nous. Il accepte de le faire. Verset 3, il est dit, Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête juive était proche. Comme c'est un passage qui est décrit dans les trois autres évangiles synoptiques, qui décrivent l'évangile de Matthieu, Marc et Luc, on peut trouver des renseignements qui éclairent ce qui est dit dans ce récit. Souvent, les gens se plaignent, pourquoi il n'y a pas un seul récit ? Il y a des contradictions entre tel évangile et tel évangile. En fait, au lieu de vous ennuyer, cette comparaison devrait vous réjouir. Parce que si le récit avait été concocté pour créer une nouvelle religion, se faire de l'argent sur le dos de pauvres personnes crédules, ils sauraient harmoniser leur récit. Et le fait qu'il y ait des petites différences, des emphases différentes, des choses qui sont plus ou moins accentuées, ça a toute la vérité de témoignage réel. Lorsque vous êtes témoin d'un accident, vous pouvez être certain que la personne qui est témoin en même temps que vous de l'accident ne va pas donner les mêmes mots, les mêmes interprétations, les mêmes faits au rapport aux policiers qui vont leur demander un rapport, un témoignage. Cette différence légère, c'est un peu comme la musique en stéréo. Quand vous écoutez de la musique en stéréo et d'un seul coup, il y a un des écouteurs sur lequel vous avez marché le matin même à votre réveil, ça devient plat. Il n'y a plus de relief, il n'y a plus de vérité. Et ces différences de point de vue, ça donne une image en 3D de la réalité que Jésus a vécue. Donc ne vous laissez pas intimider par ces différences. Réjouissez-vous au contraire de ce qu'elles soulignent des aspects différents. Et il est dit dans les autres évangiles qu'en fait, après du temps de ministère très intense, les disciples et Jésus lui-même, qui était homme, voulaient se retirer, se mettre un peu à l'écart. Il y a des gens qui semblent trouver de l'énergie en étant au milieu de la foule, en parlant à 50 personnes en même temps. Je devrais boire, je crois. Merci pour l'intention. Et en fait, il y en a d'autres, par contre, qui disent « J'en peux plus, je ne veux plus voir personne, je ne veux plus rencontrer une personne, je vais passer par la sortie de derrière. » Malheureusement, ici, pour la sortie de derrière, il faudrait faire sauter le bloc qui est sur la terrasse au 7 boulevard de Magnan, avoir une échelle pour pouvoir sortir. Si jamais vous vous sentez fatigué de parler aux gens. Jésus voit la grande foule, il lève les yeux, il voit une grande foule qui vient vers lui. Et là, Jésus change ses plans tout de suite. Est-ce que vous êtes prêt à changer vos plans lorsqu'un besoin se fait sentir ou se fait connaître à vous? Je remercie le Seigneur qu'il y a parmi nous des gens qui ont un grand cœur comme ça. Ils peuvent être chargés, peu importe. Ils habitent près de Menton, vous habitez à Cannes, et au lieu de vous laisser prendre le bus, ils vont faire le voyage avec vous, ils vont vous emmener. Ce n'est pas ma réaction naturelle, je dois le confesser. Et j'ai même souvent relaté cette expérience où une personne de l'église m'avait appelé un samedi après-midi pour me demander si je pouvais venir la chercher en voiture. Elle était à Carrefour TNL avec ses petits-enfants et elle avait pris trop de provisions et elle ne pouvait pas reprendre le bus pour rentrer chez elle. Et ma réaction instantanée, ça avait été de dire « Ben non, là je suis en train de préparer le sermon pour demain. Donc pourquoi tu appelles pas Paul ?» Si tu as beaucoup de choses, il a un grand trafic. J'ai honte de raconter cette histoire, mais c'est pour que vous ne fassiez pas d'idée sur ma sainteté. C'est important de changer ses plans lorsqu'il y a des besoins qui se font connaître à nous. Et bien sûr, le lendemain, la première chose que j'ai dû faire, c'est confesser mon péché à toute l'Église pour pouvoir continuer et parler, et lire la parole de Dieu et en parler. Sinon, j'aurais eu la crainte d'un éclair qui m'aurait transformé en un petit tas de cendres sur l'estrade. Jésus change ses plans. Et puis, c'était près d'un endroit qui s'appelle Bethsaïda, la maison des pêcheurs. Et il y avait un dénommé Philippe qui était quelqu'un qui avait besoin de voir les choses. Et on n'est pas sûr exactement pourquoi Jésus s'adresse à lui, peut-être du fait qu'il était de la région. Il aurait pu savoir où est-ce qu'il y avait un Lidl ou un Leader Price, ou peut-être que c'est parce qu'il devait lui donner la leçon. Philippe était celui qui avait dit « Viens et vois ». Il avait tendance à se reposer sur la vue. Et on sait que si on vit par la foi, on ne vit pas par la vue. Si on vit par la vue, on ne vit pas par la foi. Les deux sont un peu antinomiques. Lorsque l'on veut voir, souvent on ne va pas croire. Nous, on dit à Dieu, montre-moi et je croirai. Dieu nous répond, crois et je te montrerai. C'est l'inverse. C'est la foi qui est l'élément essentiel, la faculté, la capacité à mobiliser pour rentrer en contact avec Dieu. Et donc, il lui demande, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Et il ajoute, Jean, l'évangéliste, nous dit, « Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. » Il lui pose la question, avec une idée en tête. Il veut le faire grandir dans la foi. Il y a un autre évangile, une autre réponse qui n'est pas mentionnée ici, mais qui est mentionnée dans les autres évangiles. C'est que lorsqu'il voit tous ces gens qui n'ont pas mangé et qu'il se fait tard, qu'ils sont fatigués, plusieurs proposent de les renvoyer chez eux. Il est tard, on n'a pas de quoi les nourrir. Jésus, pourquoi est-ce que tu ne leur dis pas de rentrer chez eux ? Ça, c'est souvent notre tendance face à un problème. On prétend qu'il n'existe pas. Ils ont faim, mais renvoie-les chez eux et on peut reprendre où on en était. On peut aller se reposer, te laisser parler, te laisser nous faire du bien. Mais eux, là, c'est pas mentionné. Et là, il dit à Philippe, donc, où est-ce qu'on peut acheter du pain pour qu'ils aient à manger ? Philippe, il part au quart de tour. Philippe, lui, qui s'attache à ce qu'il voit, à ce qu'il peut toucher, il fait tout de suite le point, il fait l'ordinateur, il compte, il fait le caissier, il fait le comptable. Il se dit, voyons voir, il y a 5000 hommes. Si on ajoute les femmes et les enfants, on est facilement à 10 000 ou 15 000, voire 20 000 hommes, 20 000 personnes. Et pour acheter du pain, il faut un denier, c'était la quantité d'argent que gagnait un ouvrier dans une journée. Aujourd'hui, au taux du SMIC horaire, c'est de l'ordre de 50 euros par personne. Donc il est en train de dire qu'il faudrait 10 000 euros, ça c'est une estimation basse, pour pouvoir acheter du pain pour les nourrir. Et il dit même, les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que ces gens aient à manger. Pour que chacun en reçoive un peu. Il disait, on va serrer au maximum et on va voir si on peut avoir un peu de pain pour tout le monde. Mais il est très pessimiste. D'abord parce qu'il n'avait pas ses 200 pièces d'argent, ses 200 deniers, ses 10 000 euros, il ne les avait pas. Et puis il y en a un autre qui arrive et qui lui a une autre proposition. C'est un autre disciple, André, le frère de Simon-Pierre. Il doit en avoir marre, le pauvre André. Jamais on ne le parle de lui comme étant André. Il est toujours André, le frère de Simon-Pierre. Mais peu importe. C'est un autre de ses disciples. Les disciples, je vous rappelle, c'est quelqu'un qui suit un maître. Un étudiant, c'est quelqu'un qui suit une discipline. Le disciple va plus loin que l'étudiant. Il reçoit l'enseignement du maître. Il adhère à l'enseignement qu'il lui donnait et il en fait une règle de conduite. Il apprend par la mise en pratique de l'enseignement reçu. Donc ça, c'est... Ils sont en formation, tous ces disciples. Et André, lui, il a une autre approche. Au moins, il essaye de trouver une solution pratique. Il a déjà été faire le tour, faire un peu des sondages, voir qui avait des sacs, qui avait un peu de nourriture. Et tout ce qu'il trouve, c'est un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. un petit garçon. Alors, on ose imaginer que c'est le petit garçon qui volontairement, plein de gentillesse et de générosité, propose ses 5 pains d'orge et ses 2 poissons. L'orge, aujourd'hui, ça coûte plus cher qu'une baguette normale, si vous voulez, du pain d'orge. C'est bon, par exemple, avec des huîtres à Noël ou pour des occasions spéciales. À l'époque, c'était le pain du pauvre. Le blé était plus rare et plus cher. Donc le pain d'orge, c'est vraiment quelque chose, c'est pas fantastique. Les poissons, 2 poissons, c'était pas des saumons de 50 kilos. C'était des petits poissons de la taille de sardines, pratiquement. J'ai mis une photo montrant des vasas faits à l'orge et une boîte de sardines sur le site de Calvary-Chapelle pour parler de ce sermon qui arrivait aujourd'hui. Et c'est intéressant de voir la photo et de se dire qu'avec ça, on a pu nourrir 5000 personnes, ou 10 000, 20 000 personnes. Il y a eu vraiment un signe, un miracle qui s'est produit. Certains critiques de la Bible disent qu'en fait, le miracle, ça a été le miracle de la générosité. Parce que lorsque les gens ont vu le petit garçon qui était prêt à donner son sandwich, ils ont sorti leur sac à dos rempli de rillettes, de saucissons, de pain, de blé, etc. Mais ce qui est drôle, c'est que les gens qui proposent ça n'étaient pas là. Les Juifs qui critiquaient Jésus, qui lui en voulaient à mort, n'ont jamais contesté le fait que c'était des miracles. Et André, donc, il est plus pratique, il dit, il y a ce petit garçon, voilà tout ce que j'ai pu récolter, c'est 5 petits pains d'orge, c'était pas des grosses baguettes, et puis 2 sardines, mais, ajoute-t-il, qu'est-ce que cela pour tant de monde? Il rejoint le pessimisme de Philippe. Les disciples manquent de foi. Les disciples sont des oligopistos, en grec. Oligo, peu, pistos, c'est la foi. On pourrait tous acheter des t-shirts qui marquent oligopistos. Peut-être pensez-vous que vous avez beaucoup de foi, mais sérieusement, est-ce que vous pensez que vous ne pourriez pas avoir plus de foi en Dieu et en ce qu'il veut faire avec vous ou dans son royaume en général? Jésus intervient, il pourrait réprimander les disciples pour être des oligopistos, je ne mets pas au pluriel en grec oligopistoi, mais peu importe. Il les met au travail. Jésus nous forme comme des disciples en nous mettant au travail. Beaucoup d'entre vous disent « Je ne suis pas encore prêt pour travailler pour le Seigneur ». C'est faux. Si vous avez entendu 5 minutes de la parole, vous en savez énormément plus que les gens qui traînent sur la promenade des Anglais, que les 350 000 personnes qui vivent à Nice. Dieu peut vous utiliser. Et c'est en le servant que votre foi va augmenter. C'est important de le réaliser. Si vous restez à vous dire un jour, tu verras, je te servirai. Si on attend qu'on soit prêt, on ne le sera jamais. C'est comme les parents qui se disent « on n'est pas encore prêt pour avoir des enfants ». Quand est-ce qu'on est prêt à avoir des enfants ? Des réactions. Est-ce que tu es prête à avoir des enfants ? Oui. Pourtant, tu as eu l'expérience. C'est en se mettant au travail, on rejoint la sagesse populaire, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est pas en attendant d'avoir fait des études, un doctorat en forgeronnerie, et puis en se mettant finalement au travail qu'on va le devenir. Non, c'est, et là, il les met au travail. Verset 10, Jésus leur dit, faites asseoir ces gens. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Et c'est le mot « homme » pour désigner des mâles adultes. Andros. Ça, c'est déjà un miracle. Imaginez 5000 hommes qui obéissent et qui ne font pas des remarques. Mais pour qui il se prend celui-là ? J'ai pas envie de m'asseoir, et en plus, moi, j'aime pas m'asseoir sur l'herbe. Je veux chercher des rochers pour s'asseoir et être confortable. Il y a eu peut-être des remarques faites par la foule, par certains dans la foule, mais il s'assoit. Dieu est un Dieu d'ordre. C'est pas le blessing de Toronto où les gens se roulent par terre et en aboyant ou en faisant des simagrées. Il est dit dans un autre passage qu'il s'assoit en groupe de 50 et de 100. C'est bien carré, c'est bien ordonné. Et puis, verset 11, sans fanfare, Jésus agit. Les plus grands miracles sont faits dans la discrétion. Une personne qui vient à Dieu, c'est le plus grand miracle, et c'est un travail qui se fait dans le cœur. Après, ça peut se manifester extérieurement. Mais Jésus prit les pains, il remercia Dieu. Est-ce que vous remerciez Dieu pour votre nourriture, pour tout ce qu'il vous donne ? Si vous avez des enfants, vous voulez faire attention que ça ne prenne pas trop de temps. Je me rappelle quand mon fils est né, mon plus jeune fils commençait à prier pour remercier Dieu. Il faisait le tour de tout ce qu'il pouvait voir assis où il était, et ça pouvait durer des dizaines de minutes. Merci pour la moutarde, merci pour le bocal de cornichons. Merci pour les frites. Mais ce qui est bien, c'est d'inculquer dès le plus jeune âge et de garder ça comme quelque chose qu'en fait, toutes les bonnes choses qui nous arrivent, ça vient de Dieu. Et de lui en donner la gloire. Et de ne pas dire, tu vois, papa, il a bien travaillé, il a une prime maintenant, au lieu de merle, on va manger des grives. Non, remerciez Dieu. Jésus lui-même le fait et il distribue. Alors là, entre crochets, il est marqué aux disciples qui les donnèrent à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Et c'est basé sur les autres évangiles qu'on voit qu'en fait, il utilise l'intermédiaire des autres disciples pour faire parvenir le miracle. Il aurait pu agir autrement sans associer les disciples. Il y a un merveilleux livre d'enfants que Tonio et Sébastien adoraient, qui s'appelait Cloudy with a Chance of Meatballs. C'est nuageux avec une bonne chance de chute de boulettes de viande. Et l'histoire, c'est qu'il y avait un petit village où les gens n'avaient plus à manger, mais il avait commencé à tomber de la nourriture. Ça a été traduit en français. Il y a un film animé qui a été fait assez récemment sous le titre « Tempête de boulettes géantes ». Je vous le recommande vraiment. Si vous avez des enfants, je crois que Daphné adorera ce film. L'idée, c'est qu'il aurait pu utiliser des moyens surnaturels. Il aurait pu faire tomber des boulettes Ikea suédoises de partout. Non, il les fait participer. C'est pas eux qui font le miracle, mais il les utilise pour amener la bénédiction aux gens. C'est ce que Dieu veut faire avec nous. Il pourrait faire des tas de choses sans se préoccuper de nous, mais dans sa sagesse incompréhensible et respectable, bien sûr, parce qu'elle est sa sagesse, il choisit de nous associer à ce qu'il fait. Le Seigneur ne fait pas les choses à moitié. André disait, qu'est-ce que cela pour tant de monde, de façon pessimiste ? Jésus agit, il continue à faire distribuer autant qu'ils en voulurent. Autant qu'ils en voulurent. Ils étaient rassasiés, verset 12. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » On a souvent tendance à penser que c'est une façon de dire « Nettoyez, que ce ne soit pas sale après notre passage. Nettoyez bien pour qu'on enleve toutes les miettes. » Mais en fait, les morceaux, c'est des morceaux qui sont bien découpé. Donc ce n'est pas une question de chasse au gaspillage, c'est une question du fait que Dieu va bénir ses serviteurs aussi. Si il est dit au verset 13, ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé, c'est pas parce qu'ils voulaient faire savoir qu'ils pouvaient subvenir aux besoins des 12 tribus d'Israël, comme certains érudits vont chercher des idées un peu compliquées. Il y avait 12 disciples qui avaient besoin d'avoir de la nourriture pour le soir et peut-être pour le lendemain. Et donc, il leur donne 12 paniers. Les paniers dont il est question, c'est des paniers que les gens portaient un peu comme des petits sacs sur l'épaule. Et il avait fallu qu'il le vide de ce qu'il pouvait y avoir dedans pour mettre les morceaux qui restaient. On récoltait, juste pour les disciples, ils récoltaient plus qu'au départ. 5 pains, et là maintenant il y avait du pain dans 12, et on pense qu'il y en avait assez pour être rassasiés, donc on peut penser qu'ils avaient au moins 12 pains après avoir nourri ces milliers de personnes. Un dîner rassasiant. Verset 14. Les gens qui étaient sur place, en fait, savaient que c'était un miracle. Alors, on ne sait pas exactement comment... Si, en fait, on sait que Jésus n'a pas fait une énorme pile de petits pains et de poissons et que les disciples venaient. Non, il donnait aux disciples et le miracle se faisait dans les mains de Jésus. C'est toujours Jésus qui fait le miracle. Honte à ces hommes qui prétendent être ceux qui guérissent les foules. En essayant de recevoir toute la gloire comme si c'était eux qui étaient spéciaux. C'est celui qui donne la guérison, celui qui donne la provision, celui qui bénit, c'est Jésus. Et c'est lui qui doit recevoir la gloire. Et la réaction de la foule à la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient, verset 14, « Cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Ça, c'est le passage qui se trouve dans le Deutéronome 18, 15 à 19. C'est une Moïse qui promet qu'il y aura un prophète, que Dieu va envoyer un prophète. Alors certains reprennent ce verset pour dire que c'est le prophète de l'islam, mais il est clair qu'il s'agit de Jésus. Les gens qui voyaient comment il agissait pensaient tout de suite à ce prophète qui allait être envoyé, et ça leur rappelait aussi la façon dont il nourrissait. Ça leur rappelait sans doute, parce qu'ils connaissaient la parole, la prévision de Dieu dans la traversée du désert lorsqu'il leur donnait la manne. Cette nourriture un peu mystérieuse qui leur permettait de subsister, qui n'était pas très variée selon certains qui se sont plaints et qui ont été zappés quelque part par Dieu. Et du coup, leur motivation se montre encore. C'est le prophète promis, mais ils veulent en faire le roi. Ils veulent l'utiliser à leur propre fin. Ils veulent se débarrasser de l'oppresseur, de l'envahisseur, de l'occupant romain. Et enfin, voilà cet homme plein de pouvoir, le prophète promis par Moïse. Et donc, encore une fois, ce qui les attire chez Jésus, ce n'est pas qui il est, c'est ce qu'il peut faire pour eux. Et là, encore une fois, nous devons nous poser la question, est-ce que je viens à Jésus pour qui il est, ou seulement pour ce qu'il peut faire? Alors, je ne veux pas qu'on pense que je n'apprécie pas ce que Dieu peut faire pour nous, pour moi. Et souvent, Jésus peut utiliser cela. Vous êtes dans la maladie, vous avez une mauvaise nouvelle par votre docteur, vous n'avez pas prié depuis 35 ans, et là, vous criez à Dieu, « Guéris-moi !» Et, miracle, il vous guérit, et il peut utiliser l'accomplissement ou la réalisation de votre prière égoïste, même si elle est tout à fait légitime, on en convient tous, pour semer la foi dans votre cœur. Ils sont là et ils veulent en faire le roi. Mais lui, il déclare qu'il préfère se retirer pour aller de nouveau sur la montagne, et cette fois-ci tout seul, tout seul. Est-ce que vous prenez du temps, et je me pose la question moi-même, pour être tout seul avec Dieu? Des fois, on commence bien, puis on se laisse prendre par les activités, les responsabilités, on ne trouve plus le temps de le faire. Les moments où Dieu a vraiment dirigé ma vie, m'a guidé, c'est lorsque je prenais une journée avec ma Bible, ma guitare, un sandwich pour aller dans la montagne et prier. Et lui demander de me diriger, lui poser des questions en espérant qu'il allait me donner une réponse. Des fois la réponse était claire, des fois elle prenait du temps. Mais je crois que le fait de mettre du temps à part pour être avec Dieu, c'est fondamental dans la vie d'un chrétien. Et si vous avez des grandes décisions qui vous attendent, des choses que vous avez à prévoir, ou vous êtes dans l'expectative, vous ne savez pas quelle est la bonne direction, on peut parler à ses amis, aux anciens, aux pasteurs. C'est pas mauvais de prier, de chercher la prière, mais est-ce que vous êtes allé à Dieu tout seul? Jésus lui-même, le Fils de Dieu, le faisait sur la terre. Alors, on voit que Jésus est capable de répondre à tous nos besoins. C'est une inférence, c'est une extrapolation. Mais là, il répond aux besoins physiques de la faim. On a d'autres passages où on le voit répondre à d'autres besoins, mais on va voir que très rapidement, Jésus va se déclarer comme étant le pain du ciel, le pain de vie. Et donc, je crois que ce n'est pas faire offense ou tordre le sens de cette parabole, enfin de ce miracle plutôt, que d'y voir aussi une leçon spirituelle, une leçon pratique. Jésus pourvoit mes besoins physiques, mais c'est aussi, je crois, une très belle illustration du besoin spirituel du monde qui nous entoure. Les gens qui nous entourent, ils ont certes besoin de ressources matérielles, de soins médicaux, de conseils, d'amour, des autres. Mais leur plus grand besoin, c'est le besoin du salut en Jésus-Christ. C'est leur besoin du pain de vie qui donne la vie. C'est leur besoin de connaître Jésus-Christ. Est-ce que vous en êtes convaincus ? C'est vrai que quand on est chrétien, ce n'est pas nécessairement qu'on est riche, en bonne santé, beau, puissant. Et on voit les autres, le petit monde qui se gargarise à la télé, qui sont bien entre eux, qui se congratulent, qui se donnent des Oscars, Et on se dit, ben, ils connaissent pas Dieu, mais regarde les voitures qu'ils conduisent, regarde les jolies filles qui les suivent. Et on se dit, peut-être que, bof, non, le plus grand besoin de tous ces gens, c'est une relation qui les sauve avec Jésus. Et en tant que chrétien, comme les disciples, on peut regarder à nos propres moyens. Et on peut utiliser leur façon d'aborder le problème. On peut dire, ces gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne sont pas sauvés, je ne les vois pas, je ne les connais pas, renvoie-les chez eux, renvoie-les à leur vie de perdition. Est-ce qu'on fait pas ça des fois ? On est fatigué, on a peur que ça les gêne, que ça nous brouille avec eux. Mais c'est comme si, en fait, on se préoccupait pas du tout de leur sort éternel. Il y en a qui diront, en fait, pour sauver les gens à Nice, il y a 350 000 personnes, il faudrait au moins 35 églises vibrantes et vivantes pour les toucher. On cherche, on compte, on fait de l'arithmétique. Il y en a d'autres qui se disent, comme André, bon, ben, il y a quelques bonnes églises dans la ville, mais il y a tellement de monde, en plus avec les touristes l'été, des millions de personnes qui passent ici. Qu'est-ce que cela pour tant de monde ? Et en fait, Jésus veut qu'on soit comme ce petit enfant qui amène ses deux pains, ses deux poissons et cinq pains, et qu'il les lui confie. Dieu veut qu'on reconnaisse qu'on est faible. C'est un leitmotiv dans la Bible. C'est dans la faiblesse que je suis fort. C'est qu'on dise en tant qu'Église, on est une poignée de gens, il y a toute une population qui t'ignore complètement Dieu. On ne peut rien faire. Et si on raisonne en termes de ressources qui nous sont propres, c'est vrai qu'on n'a pas de programme à FM, de radio, on n'a pas d'avion qui pourrait tirés derrière eux en volant au-dessus des plages, Jean 3,16, Dieu vous aime, Dieu veut. On n'a pas beaucoup de moyens, mais ce qu'il veut, il veut des hommes qui sont prêts à lui remettre le peu qu'ils savent faire. Et ça veut dire que chacun de nous, il n'y a pas de différence. Vous pouvez distribuer un tract sans avoir à parler à quelqu'un. Peut-être qu'on vous insultera, alléluia, mais vous pouvez faire quelque chose. Si vous avez voulez enseigner, commencez chez vous. Invitez vos voisins. Parlez, dites-leur qui est Jésus. Demandez-leur si ça les intéresserait, une étude biblique. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à enseigner la Bible, c'était au travail. Je travaillais pour la compagnie des téléphones. Et le Seigneur j'avais entendu des messages, ça m'avait un peu remué. Et l'idée, c'était d'aller voir mes collègues de travail en leur demandant s'ils seraient intéressés d'étudier la Bible. Le midi, une fois par semaine, à la cafétéria. J'y suis allé en chantant « Fear not, ne crains rien, je suis avec toi, ne crains rien, je suis avec toi. » Je pensais commencer à étudier la Bible, ça te dirait « Oh, ça serait formidable. Je savais pas que tu étais chrétien. Ah ben moi non plus. » Et on a commencé un petit groupe comme ça. On a pu faire venir mon pasteur Wayne Taylor qui s'est adressé à 200 personnes. Je n'avais pas enseigné, mais le Seigneur m'avait mis à cœur de dire « Je peux faire quelque chose. Seigneur, j'ai que deux poissons et cinq petits pains pourris, mais je te les donne. » Alors, mon exemple n'est pas signifiant, significatif, mais c'est l'idée, c'est que chacun de nous, si nous offrons nos ressources, Dieu peut les multiplier et se glorifier. Et la gloire, elle n'est pas à nous. La gloire, elle est à lui parce que c'est lui qui fait le miracle. Jésus était un Dieu de compassion. Dans Matthieu 9, 35, il est dit qu'il voyait la foule. On peut regarder Matthieu 9, 35. Je terminerai avec ça. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors, il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Priez donc le maître de la moisson de vous donner des shekels, de vous donner de l'argent. Souvent, c'est comme ça qu'on pense, on dit, si on avait plus de moyens financiers, Seigneur, Nice se mettrait à genoux devant toi. Non, ce n'est pas ce qui est dit. Il est dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des granges. Si on avait des beaux locaux, des belles salles, alors là, des salles somptueuses, avec de la belle moquette, sans tache, des sièges rembourrés, une sono du tonnerre, alors là, ça irait tout seul. Non, c'est pas ce qu'il dit non plus. Il dit pas, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des serpes en acier spécial avec des manches en carbone électroniquement équilibrées. Nous, des fois, on se dit si on avait des bons outils, si on avait des belles salles, si on avait des bons outils, On a une petite sono. On n'a même pas de spot pour faire de la lumière de couleur. On pourrait faire... Oh, alléluia. Non, c'est pas des shekels, c'est pas de l'argent, c'est pas des salles, des granges, c'est pas des outils, des moyens matériels dont il est question, des ordinateurs, des systèmes de traduction géniaux, des disciples. Non, ce qu'il veut, c'est prier donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Des ouvriers. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à lui remettre leurs petites ressources pour qu'il puisse les multiplier. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu veux des hommes qui viennent avec leurs petites ressources à toi pour que tu puisses les multiplier. Seigneur, apprends-nous à avoir plus de foi. Seigneur, apprends-nous à te faire davantage confiance, à venir t'offrir nos maigres ressources, nos maigres talents, sachant que toi, tu peux te glorifier en les utilisant comme tu as utilisé le sandwich de ce petit garçon pour nourrir 5000 personnes, Seigneur. Ma prière, Seigneur, c'est que tu puisses utiliser cette église pour toucher beaucoup de monde, que tu puisses utiliser toutes les églises de la ville pour faire une œuvre de salut à travers ces ouvriers, Seigneur. Et notre expérience, c'est que tu sais que ce qui compte, c'est l'ouvrier, que les ressources en argent, en matériel, en outils, en locaux, tu les ajoutes, toi, au fur et à mesure. Tu nous dis bien de chercher d'abord le royaume de Dieu et que toutes ces choses, le vêtement, les logements, la nourriture, tout cela est ajouté par la suite. Seigneur, aide-nous à vraiment partager le pain de vie que tu es avec ceux qui nous entourent. Même si nous ne sentons pas équipés, adéquats, Seigneur, toi, tu peux faire le miracle du salut. C'est notre prière. Par le nom de Jésus. Amen.